On se retrouve en direct de Glovelier pour ce grand débat public en vue des élections fédérales du 20 octobre. 7 nouveaux candidats nous ont rejoints pour cette deuxième partie, Michel.
Avec nous, Anne Froidevaux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes candidate PDC au Conseil national. Bonsoir, Elisabeth Baumschneider.
Bonsoir.
Candidate PS au Conseil des États. Sur ce plateau également, Thierry Froidevaux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes candidat UDC au national et aux États. Bonsoir, Frédéric Lovy.
Bonsoir.
Candidat PCSI au Conseil national, Ernest Gerber, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes candidat PLR au Conseil national également. Avec nous aussi, Erika Henquin, bonsoir.
Bonsoir.
Candidate des Verts au Conseil national. Et puis enfin, bonsoir Frédéric Nicolet.
Bonsoir.
Et candidat du PEV au national.
Alors, on a évoqué avec le plateau précédent une des actualités qui marquent l'année en cours, les grèves pour le climat. On enchaîne avec un autre événement qui a marqué l'histoire du pays, pour avoir aussi brièvement l'avis de chacun. C'était évidemment la grève des femmes du 14 juin dernier. Elisabeth Baumschneider, et maintenant, quelle suite faut-il donner politiquement à Berne ?
Alors, je crois qu'on a eu la chance qu'il y ait déjà des suites, mais qui sont des petits pas qui doivent être améliorés, parce que l'intelligence de la rue, comme on aime à le dire, est devenue aussi une responsabilité au niveau politique. Alors, par exemple, grâce à la mobilisation, grâce à cette grève des femmes, on a pu obtenir un congé paternité qui est nettement trop modeste. On devrait aller vers un véritable congé parental. Il y a la question de l'égalité salariale, bien sûr, mais ce qui est aussi totalement formidable dans cette grève, c'est qu'à un moment donné, on nous observait un peu avec sarcasme ou condescendance, on disait pourquoi on utilise le terme grève, ou bien pourquoi les hommes n'ont pas la parole. Et quand on a vu les femmes dans la rue et les hommes, les jeunes, les moins jeunes, tout parti confondu. Moi, quand je suis allée à Seignelay et qu'il y avait des copines femmes paysannes, qu'il y avait des étudiantes, qu'il y avait des personnes à la retraite, qui ensemble ont dit « ça suffit, on veut véritablement se battre pour des questions d'égalité, d'équité, de respect de la diversité », je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Donc, premier lieu, égalité salariale, congé parental, proche aidant, enfin tout ce qui concerne le vivre ensemble en termes d'égalité et d'équité.
Thierry Froidevaux, l'égalité salariale entre femmes et hommes, vous en dites quoi ?
Ben, aucun parti aujourd'hui, je pense, peut remettre en question l'égalité des femmes et des hommes au niveau salarial. C'est quand même clair et net que c'est important que les femmes aient le même salaire que les hommes à compétences égales, salaire égal.
Et on fait comment alors sous la coupole pour défendre ça ? Qu'est-ce que vous allez faire, vous, si vous êtes élu ?
Ouais, c'est un chemin qui se fait, déjà c'est tous les partis qui s'investissent, mais c'est un chemin qui se fait, je pense, naturellement. Le problème qu'on a un petit peu au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on veut pousser la femme en avant, ça c'est très bien, mais on a aussi les problèmes d'équité au niveau des classes sociales. Alors est-ce que là aussi il ne faut pas défendre ? Moi je ne suis pas forcément... Les salaires des femmes, c'est les entreprises qui doivent les mettre en place. L'équité, ça c'est le Parlement qui peut faire aussi un peu plus d'équité au niveau des classes sociales et tout ça.
Anne Froidevaux, est-ce que cette grève des femmes doit porter beaucoup d'eau au moulin lors de la prochaine législature ? Ça doit être un tremplin politique ?
Alors bien sûr, cette grève des femmes, elle a permis de remettre un bon coup de visibilité sur une problématique qu'on connaît depuis très longtemps. Ça ne concerne pas seulement les salaires entre hommes et femmes, hein, ça concerne vraiment l'égalité globale, la discrimination, les conditions générales, cadre de vie des femmes pour leur permettre aussi de pouvoir avoir un emploi. Donc ça a permis de mettre une bonne visibilité. Maintenant, la suite, effectivement, c'est une vigilance qui doit être permanente dans différents niveaux de la société, au niveau politique, que ce soit au niveau fédéral, cantonal ou communal. Les parlements doivent être attentifs à la problématique dans leurs décisions, dans leurs projets, au niveau économique dans les entreprises, parce que les entreprises maintenant aussi doivent faire l'effort d'arriver à cette égalité, et puis aussi au niveau finalement éducatif, parce que pas seulement au niveau scolaire, mais aussi au niveau familial, je pense que tout un chacun peut amener à un changement de mentalité avec les changements de génération, en inculquant simplement aux enfants que tout le monde est égaux et tout le monde a les mêmes droits et les mêmes chances.
Frédéric Lovy, plusieurs partis ont établi des listes paritaires, dont le PCSI, qui présente nommément une liste femmes et une liste hommes, notamment. Mais dans les faits, mettons les femmes suffisamment en avant ?
Oui, bien sûr. Et comme vous l'avez dit, le PCSI a toujours été très égalitaire. Il l'a prouvé, il le prouve encore avec les votations au national avec des listes paritaires. C'est vrai que tout ce qui a été dit au niveau de l'égalité salariale, les postes à responsabilité, les reconnaissances du travail, mais également la fin de la violence à leur égard a encore une très grande marge de progression. Pour y remédier, le PCSI prône en faveur des collections collectives de travail et à l'encouragement du taux de travail à temps partiel. Et comme vient de le dire ma prédécesseur, l'éducation est également très importante et là, on doit prendre cela en compte. si la situation ne devait pas évoluer, peut-être qu'il y a l'imposition de quotas. Mais c'est vrai que pour le moment, le PCSI n'y est pas favorable, mais c'est une piste qui pourrait être évoluée au bout d'un moment si cette prise de conscience d'égalité n'intervient pas.
Alors justement, Ernest Gerber, plus de femmes dans les milieux économiques et les conseils d'administration, ça vous parle ?
Oui, bien sûr, il y a toujours plus de dames au niveau du conseil, dans les conseils d'administration. Pour nous, il est absolument clair, pour un travail égal, le salaire doit être absolument égal. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en 1981, le principe de l'égalité est inscrit dans la Constitution et la loi prend force sur l'égalité en 1996. Les choses évoluent, mais il reste beaucoup de chemin à faire. Pour ma part, il est évident qu'il faut vraiment travailler au niveau des conventions collectives de travail. Cela concerne tous les aspects de la société. Il faut que tout le monde agisse à son niveau.
Frédéric Nicolet, pour le PEV, les quotas, c'est une solution ?
Je ne vois pas tellement que ça soit une solution, mais il faut qu'il y ait vraiment une ouverture qui soit claire par rapport à la présence de femmes dans des conseils d'administration ou que ce soit dans l'économie. Ce qu'on voit, c'est que souvent, c'est très, très, très difficile pour une femme de revenir aussi après peut-être un congé maternité, parental, si elle veut passer du temps avec ses enfants, ce qui est légitime, de revenir dans le cadre professionnel. Et puis là, il y aurait besoin d'une aide pour que ça puisse se faire un peu plus en douceur. On ne peut pas séparer le côté femme de famille aussi, parce que souvent aussi si une femme ne peut pas avoir autant de liberté de se présenter par exemple en politique ou alors dans l'économie, c'est souvent parce qu'elle a aussi une charge qui n'est pas respectée et qui est souvent pas mise en valeur. Donc il faut absolument voir pour mettre en valeur ce que font les femmes dans notre société et les familles en général.
Eric Hanquin, est-ce qu'on peut imaginer des mesures à mettre en place durant la prochaine législature pour permettre aux femmes d'accéder peut-être plus facilement à d'autres fonctions politiques ou professionnelles ?
Oui, bien sûr. Ça marche ? Bon. Oui, bien sûr. J'aimerais quand même rappeler, je me permets de rappeler ici que lors de la grève, il y avait 500 000 femmes, c'est-à-dire femmes et hommes, 500 000 personnes, c'est-à-dire
bien face de votre micro.
Un demi-million voilà. De personnes qui ont été rassemblées pour justement demander l'égalité. Et même à Delémont, il y en a eu 5 000, c'est vraiment inédit. Alors, évidemment, il faut travailler sur la conciliation, travail-famille, mais aussi, évidemment, sur le financement de l'accueil extra-familial des enfants. J'aimerais dire qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, le Parlement jurassien a refusé que les employeurs et les employeuses soient plus impliqués dans le financement de l'accueil extra-familial des enfants. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que les milieux de l'économie doivent faire un effort supplémentaire. J'espère que la grève des femmes a été entendue jusque chez les employeurs, jusque chez les milieux économiques. J'aimerais aussi parler de l'égalité, je dirais financière, parce qu'il n'y a pas que l'égalité salariale, à travail égal, salaire égal entre femmes et hommes, mais il s'agit aussi, par exemple, d'avoir une égalité au niveau des retraites, des assurances sociales. On sait, par exemple, qu'au niveau des retraites, pour les femmes, c'est à peu près 30%, passé 30% de moins que pour les hommes. Donc là, il y a évidemment aussi des mesures à prendre. Par exemple, dans le cadre du deuxième pilier, dont il faudrait commencer à le payer à partir du premier franc pour tout le monde. Maintenant, pour les décisions politiques, pour qu'elles soient prises de manière judicieuse à Berne, au niveau national, je suis sûre qu'il faut absolument une représentation équilibrée entre femmes et hommes au Parlement. Et on pourrait essayer, par exemple, une législature de demander la parité au niveau des listes. Et si ça ne fonctionne pas, si on n'a pas au moins 40% de femmes, alors à ce moment-là, demander, exiger la parité au niveau des élus.
Alors, une rapide réaction, Thierry Froidevaux et puis Anne Froidevaux.
Oui, alors moi, je voudrais quand même préciser quand même l'égalité des femmes au niveau salarial, c'est une chose, hein, donc moi, je suis pour. Après, de dire que l'égalité des femmes et des hommes sur les autres plans sociaux, on ne peut pas être l'égal d'une femme et une femme ne peut pas être l'égale d'un homme. Ça, c'est quand même irrémédiable, je m'excuse, mais c'est quand même encore les femmes aujourd'hui qui font des enfants. Nous, on ne peut pas reproduire... Porter l'enfant et tout ça, si vous voulez une société qui commence, alors papa c'est maman, puis maman c'est papa, ça ne va pas non plus, je veux dire. On a des cadres familiales, il faut quand même être conscient qu'on a des familles encore aujourd'hui, il y a un homme, il y a une femme, chacun a ses responsabilités. Et puis un petit peu, moi, dans le mouvement des femmes qu'il y a eu quand même, je sens un petit peu, c'est une attaque personnelle envers les femmes au foyer, parce que justement, c'est des femmes... Bon, alors c'est clair, sur le plan social, salarial, il y a des choses à faire, il y a des investissements à mettre, mais sur le plan idéologique, on détruit l'idéologie des familles, parce qu'on considère que maintenant, ben, bientôt, une femme a une paire de couilles, puis un homme une paire de seins, quoi. Ça va pas.
Anne Froidevaux, puis Elisabeth Bonschneider.
Je vais commencer par réagir à ça. Donc, on n'est pas en train de détruire un idéal familial, bien au contraire. On aimerait juste pouvoir donner la possibilité aux femmes qui veulent rester à la maison, de rester à la maison, et aux femmes qui ont envie de travailler et d'apporter quelque chose à la société économique, de pouvoir le faire également avec des conditions qui le permettent et sur un pied d'égalité avec les hommes. Parce que oui, il y a des différences biologiques entre les hommes et les femmes, mais au-delà de ça, derrière un bureau ou dans une fonction similaire, il n'y en a pas tant que ça des différences, Monsieur Froidevaux. J'aimerais aussi réagir par contre à ce que Madame Henkin a dit avant, que le Parlement avait refusé que les entreprises s'engagent plus pour le financement des places de crèche. J'imagine qu'elle fait référence au projet de RFFA cantonal. Pourquoi est-ce que finalement on est revenu en arrière avec ça? C'est parce que le Parlement a accepté d'augmenter le montant des allocations familiales qui seront versées aux enfants jurassiens à l'avenir, et qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus toujours charger le bateau des entreprises, parce que si on veut qu'elles innovent, qu'elles se développent et qu'elles créent de l'emploi, il faut aussi leur laisser un peu d'air.
Alors, rapidement, les réactions, Elisabeth Baumschneider et puis Eric Hanquin.
Alors, rapidement, effectivement, je ne vais pas répondre à M. Froidevaux sur sa leçon de biologie, mais par contre, quand même indiquer que quand on parle d'égalité homme-femme, il y a aussi quantité de prestations qui sont utiles aux hommes. J'entends, quand on parle, par exemple, d'égalité salariale, il y a aussi la question du temps de travail. Et je sais qu'il y a quantité d'hommes jeunes et moins jeunes qui souhaitent avoir des postes à responsabilité ou non à temps partiel. Le 80%, c'est plus quelque chose qui n'est juste, entre guillemets, possible pour quelques privilégiés. Et puis ensuite, je crois qu'il faut aussi revenir par exemple, à une population que vous défendez systématiquement, les agriculteurs. L'association suisse, entre guillemets, des paysannes...
Hein, c'est pas exclusif aux agriculteurs.
Justement pas, mais j'aimerais bien dire que l'association suisse des paysannes, elle s'est battue pour la couverture sociale du conjoint ou de la conjointe dans l'agriculture au niveau de la consultation PA22. Et puis, c'est pas votre parti qui soutenait ça, ni certains autres partis, alors que notamment certains cantons l'ont soutenu. Malheureusement, le Jura l'a soutenu qu'avec des conditions. Mais c'est aussi ça, le soutien à l'agriculteur. C'est le soutien à la femme paysanne ou à l'agricultrice pour qu'elle ait des assurances, pour qu'ensuite, si malheureusement, il y a une histoire pas toute simple au niveau du couple, qu'il puisse y avoir soit l'assurance chômage, que s'il y a accident, qu'il puisse y avoir l'assurance invalidité. Donc c'est aussi ça l'égalité.
Ça
c'est à tous les niveaux.
Dans l'entreprise
ça passe par une reconnaissance du rôle des femmes. Peut-être juste pour Erika. Juste, je vais lui passer la parole d'ailleurs, mais si on peut avoir des rentes décentes, ça commence quand même par le salaire au départ.
Évidemment. Je voulais réagir à ce qui s'est dit tout à l'heure par rapport au fait que l'homme ne soit pas tout à fait égal aux femmes, c'est évident, mais il faut une reconnaissance et puis un respect. Il faut un respect pour les hommes et pour les femmes, et un respect aussi pour le modèle de famille qui est choisi, quel qu'il soit. Et une chose qui est très importante, qui a déjà été dit, mais que j'aimerais bien répéter, c'est le fait de pouvoir concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Donc ça passe vraiment par un système de temps de travail flexible, par des possibilités de travail à domicile, le temps partiel autant pour les hommes, pour les femmes. Et je sais que c'est difficile à obtenir. Les employeurs ont du mal à accorder du temps partiel, notamment aux hommes. Et ça devrait vraiment changer.
Passons à présent, si vous le voulez bien, à un nouveau thème dont on va débattre à Berne, la politique agricole. Avec la PA22+, la Confédération veut doter, je cite, l'agriculture des moyens qui lui permettront d'augmenter la valeur ajoutée sur le marché, renforcer l'efficience des exploitations et continuer à réduire l'impact environnemental et la consommation des ressources non renouvelables. Le Jura, on le sait, est un canton rural. Que doit-il défendre ou alors revendiquer à Berne, Thierry Froidevaux?
Le Jura doit défendre. Bon, le Jura d'abord est un canton avec une agriculture forte, ça faut le savoir. On est dans les plus grandes exploitations de Suisse, donc on a un modèle un petit peu suisse sur l'agriculture. Moi, je regrette vraiment par rapport à cette politique qui se passe justement à Berne, c'est qu'on vient avec une politique agricole qui a été préparée par l'OFAG, et puis en fait, tous les députés, toute la députation doit se battre pour aller contre cette réforme qui devait être pour l'agriculture. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que le Conseil fédéral, il a une office qui ne fonctionne pas. Il a une office qui était, bon, en ce temps-là, très libéral, bien sûr, mais qui nous a beaucoup fait tort parce qu'il voulait des réformes énormes qui était impensable pour les agriculteurs, notamment passer un brevet fédéral pour avoir une exploitation, ouvrir aux entreprises cachées, donc Coop et Migros, la capacité d'acheter du terrain agricole et des exploitations agricoles. Il a fallu tous se battre contre ça pour pas réussir à laisser ça se mettre en place. Et ça, c'est une énergie terrible qu'on a perdue pour l'agriculture. Puis à la place de ça, ben, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas avancé. On recule de nouveau. L'économie prend du pas sur le social prend du pas sur l'agriculture. L'économie prend du pas sur l'agriculture. Même l'armée prend du pas sur l'agriculture. Et l'agriculture, on doit se défendre. C'est pas possible.
Eric Hanken, agriculture sur la défensive.
Oui, ce que j'ai vu dans les statistiques, c'est qu'en fait, les terres arables, les terres agricoles donc cultivables, elles ont plutôt tendance à augmenter, pas beaucoup, mais très, très légèrement en Suisse. Ça, c'est les dernières statistiques 2018. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est en fait que le nombre d'emplois dans l'agriculture a diminué et que le nombre d'exploitations en Suisse a tendance à diminuer aussi. Donc on veut rentabiliser, faire des structures plus grandes. Et à mon avis, et de l'avis des Verts, ce n'est pas la meilleure solution parce que ça donne pas vraiment de l'emploi. Les petites structures qui font de la transformation dans la ferme ont une possibilité de bien se débrouiller économiquement, beaucoup meilleure que les grandes avec une ou deux personnes sur des grosses machines. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète aussi, disons la tendance, justement par rapport à cette centralisation, c'est qu'on voit maintenant, vous avez sûrement entendu parler, dans le canton de Zoug, on prévoit une ferme avec 1040 vaches. C'est 25 ou 30 fois ce qu'un agriculteur ou ce qu'un paysan moyen, je dirais même jurassien, c'est vraiment une machine à produire du lait. L'animal n'est plus du tout respecté, disons. Hein. C'est qu'une machine à produire du lait. Et ce qu'il faudrait aussi changer, au fond, pour que notre agriculture puisse bien se développer, c'est essayer de diminuer la vente de produits qui sont bon marché, fortement transformé, rempli d'agents toxiques qui arrivent dans nos assiettes. Alors nos producteurs ici, ils ne produisent pas comme ça. Mais il ne faudrait pas que ça devienne une tendance dans le canton du Jura.
Frédéric Nicolet, quelles revendications est-ce que vous auriez à Berne pour l'agriculture?
Le PEV se place toujours en mettant l'être humain au centre. Donc finalement, on va mettre l'agriculteur au centre. Et puis, ce qui est difficile à entendre, c'est qu'on entend quand même beaucoup de grosses problématiques au niveau humain chez les agriculteurs. On entend beaucoup parler de suicides, on entend beaucoup parler de difficultés à transmettre une exploitation agricole à des enfants. Et ça veut dire quoi? C'est peut-être qu'il y a un malaise vraiment à ce niveau-là, au niveau de l'agriculteur, bon, qui est dans un cadre qui est extrêmement complexe, qui est finalement même plus forcément payé pour ce qu'il produit directement, mais qui est pas valorisé. Donc je pense qu'il faut déjà pouvoir valoriser le travail de l'agriculteur.
Comment?
Et déjà avec une plus grande transparence des produits qu'on achète, parce que si les gens vont se rendre dans un supermarché, égal lequel, franchement pour moi, un concombre, ça ressemble à un concombre, et puis voilà. Mais si on avait... je parle sous étiquette énergétique ou des choses ou quelque chose de visible par rapport à des labels et par rapport à qu'est-ce qui vient de la région, qu'est-ce qui est fait où, sous quelles conditions, ça nous permettrait au moins aux consommateurs après de pouvoir mieux choisir consciemment ce qu'on prend et qui on veut favoriser.
Anne Froidevaux, Frédéric Nicolet parle d'un cadre complexe, il est trop complexe.
Mais je crois que tous les cadres sont complexes et qui méritent qu'on s'y intéresse. Maintenant, ce que les agriculteurs, ils sont prêts à produire finalement ce que le consommateur y demande, pour autant qu'ils puissent en vivre. Et c'est là la difficulté actuellement du monde agricole, c'est que avec le prix du lait et d'autres prix des denrées, les agriculteurs ont beaucoup de peine à vivre de leur production. Donc maintenant, il faudrait vraiment que les grands distributeurs agissent en faveur des marges, enfin sur les marges, en faveur des agriculteurs. On a vu dernièrement, il y a un lait équitable qui est sorti en Suisse romande. Les grandes surfaces que sont Migros et Coop ont refusé, pour des raisons qui leur sont propres, de le distribuer. C'est un reportage très intéressant d'ailleurs. Et moi, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Il faut privilégier vraiment que l'agriculteur puisse être rémunéré pour son travail, que ce ne soit pas que les distributeurs ou les fabricants qui touchent leur marge. Et puis, il faut aussi favoriser, bien sûr, une agriculture durable et locale. Il faut sensibiliser aussi la population. On dit toujours qu'en Suisse, les produits coûtent plus cher. Mais pourquoi ils coûtent plus cher? Parce qu'on a des lois plus strictes et que les moyens de production respectent normalement l'environnement, la nature et le bien-être des animaux.
Frédéric Louvy, inciter le consommateur à consommer local, c'est la clé d'après vous?
Oui, bien sûr, c'est évident. Et on dénonce la concurrence et par exemple le principe de Cassis de Dijon qui est un véritable scandale. Comment on peut encore aujourd'hui autoriser une labellisation des produits avec le même contenu, mais d'une part, vous avez un contenu, par exemple, pour du jus de pomme suisse sans eau, et de l'autre, avec un jus de pomme dilué. Donc, le consommateur, par rapport à ça, est berné, et bien évidemment, le paysan, lui, est lésé. Il est donc important de revoir cette politique avec des protections, peut-être, douanières un peu plus strictes en ce qui concerne l'importation de marchandises, surtout au niveau agricole. Mais je crois qu'il y a un axe qui est très important, qui a été soulevé ici, c'est l'importance d'une agriculture à taille humaine, familiale, qui est essentielle à la vie des régions, comme le Jura, comme surtout les Franches-Montagnes et le Clos du Doubs. Quel serait l'avenir du Clos du Doubs sans un maintien du tissu rural actuel? Il s'agira donc pour les élus à Berne d'être sensibles à ces aspects, par exemple à la distribution des aides publiques ou aux modifications du droit foncier rural. Et ça, c'est des instruments que la politique agricole au niveau jurassien doit défendre à Berne.
Ernest Gerber, la concurrence est un problème aujourd'hui pour l'agriculture?
Moi, je ne pense pas du tout que la concurrence soit un problème, parce que la pérennité du secteur agricole ne doit pas reposer uniquement sur les paiements directs. Une réelle demande existe pour les produits suisses de qualité. Les agriculteurs suisses ne doivent pas craindre la concurrence, mais au contraire, s'orienter vers le marché et être fiers de leurs produits. La production alimentaire suisse doit être autant que possible respectueuse des ressources, tout en préservant aussi bien la nature que le bien-être animal. Cela signifie également que les pesticides doivent être réduits autant que possible ou interdits s'ils sont particulièrement nocifs. Au niveau de la concurrence, il faut aussi rappeler que, au niveau de l'approvisionnement, de l'auto-approvisionnement, l'agriculture suisse, on arrive à produire le 55%. Donc nous devons importer le 40% des biens à consommer que l'on doit importer.
Elisabeth Pomschneider.
Oui, peut-être juste dire à Monsieur Gerber que d'être fier de ses produits, c'est fondamental. Mais comment vous voulez être fier de votre produit quand le prix du lait, c'était ce printemps à 52 centimes? C'est des prix du jour, hein, ils évoluent à chaque fois. Aujourd'hui, il est à 58 centimes pour le lait industriel. Il y a tous les jours des agriculteurs qui cessent de produire du lait dans le Jura. On peut dire que c'est pas un mal, mais si, je pense que c'est un problème quand même pour certaines fermes. Le lait bio, il est à 82 centimes. Donc être fier de ces tarifs-là, quand on sait combien on le paye ensuite dans les grandes surfaces, on ne peut pas être fier ni du travail qui n'est pas reconnu, ni de la manière dont nous, consommateurs, nous nous conduisons. Anne Froidevaux l'a montré, l'a décrit, hein, cette proposition de lait équitable où on paierait le litre 1,85. Et je pense qu'on est toutes et tous d'accord de payer ce prix-là. ça doit se mettre en place. C'est compliqué parce qu'il faut des régions. Hein. J'entends, moi, je connais un agriculteur jurassien qui a pris contact avec l'équipe qui organise ça. Et puis, ils sont extrêmement intéressés, mais ils n'arrivent pas à organiser le ramassage du lait jusque dans notre région. Il faut savoir qu'il y aura aussi des fromages fer suisse. En fait, il y a toute une attitude à changer au niveau de nous, des consommateurs. Puis peut-être, alors vraiment, et je pense que ce n'est pas une marotte ni de la gauche, ni des Verts, par ailleurs, je crois qu'il faut vraiment maintenant être d'accord et responsable pour privilégier les circuits courts. On peut acheter les produits qui sont produits dans la région ou dans la proximité et puis pas être dans un débat où parfois, c'est, je déteste les anglicismes, mais de l'agriculteur bashing où on ne voit que ce qui ne va pas. Et c'est vrai qu'il y a des améliorations à faire, c'est vrai que le glyphosate c'est fini, mais c'est vrai aussi qu'il y a un travail qui se fait, qu'il y a un patrimoine au niveau du patrimoine, du petit patrimoine vernaculaire, les murs en pierre sèche, les pâturages boisés, tout ça c'est aussi les agriculteurs. Mais les circuits courts en premier lieu, c'est ce qu'il faut mettre en place. Et puis c'est pas seulement ce week-end quand on ira au, c'est pas le salon, hein, je veux dire, mais le concours des produits du terroir, c'est toute l'année qu'on peut acheter des produits de saison et produits dans la région.
Une réaction, Eric Hanquin, et
oui,
puis
Thierry Prado. Je voulais dire que je suis vraiment contente d'entendre Monsieur Gerber dire qu'il faut absolument réduire les pesticides, en interdire quelques-uns, parce qu'au niveau du Parlement jurassien, quand on a fait des interventions dans ce sens-là, son parti n'a pas soutenu. Donc ça signifie que par la suite, il va soutenir et qu'il va peut-être pouvoir convaincre ses collègues de Berne de le faire aussi, parce que c'est vrai que c'est un gros souci, les pesticides. Il y en a beaucoup dans l'eau. On a eu récemment des analyses du doux de la laine et dans les sols évidemment, et parfois même dans l'air. Donc se tourner vers une agriculture biologique le plus possible, c'est vraiment quelque chose de très important maintenant qu'il faudra défendre. Il faudra défendre à Berne. Le canton des Grisons, par exemple, est bio, si je me rappelle bien, 60%, en tout cas plus de la moitié. Puis, et il semble que ça se passe très très bien. En tout cas, on n'a pas entendu d'effets négatifs dans ce sens-là. Mais j'aimerais ajouter aussi qu'en fait, si on regarde le marché du lait, puisqu'on en a parlé, tout à l'heure, donc il y a une diminution importante de l'effectif des vaches laitières parce que c'est plus rentable, c'est plus vivable pour les exploitants. Mais par contre, au niveau de la production bio, le lait résiste bien à cette tendance. Donc c'est un marché intéressant. Les gens sont d'accord de payer un peu plus. Et comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, effectivement, il faut faire un gros travail chez les distributeurs. Il faut absolument qu'ils réduisent leurs marges pour les produits agricoles.
Thierry Froidot.
Oui, alors bon, j'entends bien, il y a des discours sur le prix du lait, tout ça, moi ça m'énerve un petit peu, parce qu'à un moment donné, les militants de gauche, c'est eux qui détruisent l'agriculture principalement, parce qu'ils sont toujours en train d'agresser les agriculteurs parce qu'ils n'élèvent pas bien leurs animaux, parce qu'ils ne font pas si bien, pas assez écologique, pas assez ci, pas assez ça. Les agriculteurs, ils ont la pression à cause de ça, parce qu'on les fait toujours culpabiliser, c'est des gens bien, c'est des gens qui essayent d'être responsables, on les fait culpabiliser chaque fois qu'ils font quelque chose. Et puis entre choses, quand j'entends le PDC qui dit qu'il soutient l'agriculture, il faut déjà soutenir ses terres et son terrain. Et quand on a voulu, à l'UDC Jura, dans le plan directeur cantonal sur l'aménagement du territoire, faire que les parkings souterrains soient beaucoup plus construits, que les parkings souterrains soient priorisés par rapport à des parkings en plein air, le PDC et Anne Froidevaux, par sa voix prépondérante, en tant que présidente, a voté contre cette initiative qui préserve le sol agricole. Alors, ouais, à un moment donné, il faut être cohérent aussi.
Elisabeth Bonnet-Schneider, vous êtes coupable d'agression ?
Oui, j'entends, mais je viens de dire que je suis contre l'agression systématique ou bien le bashing à l'égard des paysans. Donc, je ne sais pas ce qui vous prend quand vous êtes dans cette
situation. C'est vos électeurs.
Mais pas du tout. Je crois que les agricultrices et les agriculteurs ont besoin de solidarité, ont besoin d'un dialogue, ont besoin d'un respect mutuel. Je crois qu'eux ont besoin de respect, mais ils ont aussi besoin de respecter des valeurs qui sont hautes. Moi, je ne suis pas en train de dire que dans chaque écurie, il y a des bêtes qui souffrent. Mais en même temps, ils doivent aussi entendre qu'il y a des règles, qu'il y a des comportements qui doivent être adoptés, et puis notamment au niveau des engrais et autres. Et puis, la détention du bétail. Maintenant, j'aimerais quand même juste, vu que vous aimez bien comme ça balancer des critiques à l'encontre de tout le monde, vous signaler que c'est votre conseiller fédéral qui est tutoyé par votre collègue qui vient de se réjouir la bouche en cœur de signer un accord avec le Mercosur. Là, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est de la viande, des produits laitiers par rapport à des accords de ce genre. Mais, alors, répondez.
Mais la viande, alors je peux répondre. La viande et les produits laitiers, ils sont déjà là, ils viennent déjà de ces endroits-là. Seulement, ces accords du Mercosur, c'est vrai, un point négatif, c'est qu'on arrivera à descendre les prix encore plus pour les grands distributeurs. Ça, c'est vrai. Mais avec ça, on arrivera à mettre en place des dispositions et puis intervenir là-bas en disant que maintenant, tout ce qui importe, tout ce que vous apportez chez nous, ça doit répondre à certaines règles. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas d'accord de libre-échange.
Mais vous rêvez ou bien vous pensez que c'est Noël avant Noël? Vous pensez que Jair Bolsonaro, il va vous écouter et puis qu'il va mettre des conditions cadres pour les éleveurs en Argentine ou ailleurs?
Ce n'est pas Bolsonaro qui décide qu'est-ce qui rentre en Suisse, c'est les propres Suisses. Mais c'est vrai qu'apparemment...
Oui, alors vous aimez qui décider pour la migration aussi, mais pour les produits, ce n'est pas vous qui décidez ni moi, c'est les accords qui ensuite permettent des libre-échanges qui sont sauvages pour la protection des produits agricoles.
Chaque pays de l'ALE peut mettre en place des sauvegardes, des produits qui ne correspondent pas à son mode de production. On peut mettre une clause de sauvegarde où c'est que ces produits sont interdits d'entrer en Suisse.
Alors, voilà. Vous avez
juste pour répondre quand même, parce
rapidement,
que si Monsieur Froideau a suivi les débats du Parlement jusqu'au bout par rapport au plan directeur cantonal, il a certainement vu aussi que par ma voix prépondérante, j'ai limité la taille maximale des surface parking extérieure. Et si j'ai dû trancher, c'est parce que justement la majorité de droite du Parlement n'a pas réussi à fonctionner. Donc là, regardez aussi ce que votre parti a fait. Le PDC s'est toujours engagé depuis de nombreuses années en faveur de l'agriculture, que ce soit au niveau fédéral ou cantonal. Et il y a d'ailleurs une étude de la Bauern Zeitung qu'il a démontré dernièrement que le PDC est d'ailleurs le parti qui soutient les dossiers en faveur de l'agriculture le plus durant la dernière législature.
Voilà, on va passer au thème suivant. Il a été évoqué dans cette discussion, c'est le libre-échange. La Confédération estime que notre prospérité dépend en grande partie des échanges commerciaux avec d'autres pays. Alors, dans certains pays d'Europe, aux États-Unis, au Brésil, on trouve aujourd'hui des présidents ou gouvernements dits populistes qui veulent peut-être favoriser le protectionnisme. Comment se positionner face à cela, Ernest Gerber, on commence avec vous.
Je dirais que les gouvernements passent et les accords restent. La Suisse n'a pas à donner des leçons aux autres pays sur leur manière d'être gouvernés. La Suisse commerce avec presque l'ensemble du monde. Les accords de libre-échange permettent de mettre un cadre sur les produits qu'on importe. Cela permet de pouvoir négocier de manière dynamique avec ces pays. Cela permet un meilleur contrôle des denrées qui arrivent en Suisse.
Elisabeth Baumschneider pour une réaction.
Oui, pardon, les bras m'ont tombé un peu parce qu'effectivement, ce n'est pas la Suisse qui va donner les règles de gouvernance au monde entier, mais comme vient de le dire M. Froideau sur cet aspect-là, on peut mettre des règles sur ce qui est acceptable ou pas acceptable. Et puis quand on parlait tout à l'heure du Mercosur et puis de cet accord potentiel ou possible, parce qu'il n'est pas encore définitif, je veux dire, il faut quand même se poser la question au sujet de la déforestation, au sujet des conditions cadres des activités comme elles sont menées. Et puis il y a des libéraux, je me permets de le dire, comme par exemple Dick Marty, qui soutiennent l'initiative pour des multinationales responsables. Parce que je crois qu'on ne peut pas être assis chez nous bien confortablement, consommer, regarder le monde se détruire, et puis ensuite se dire « Ah, il y a quelque chose qui s'est passé ». Donc moi, je pense que tous ces accords, ils ont des vertus, mais on doit pouvoir les accompagner avec des mesures comme on le ferait nous. Je veux dire, c'est la même chose avec le libre-échange au niveau de l'Europe. On est d'accord de signer, mais on veut des accords qui permettent de protéger les salaires au niveau de la Suisse. Donc, ce qu'on exige pour nous, je crois qu'on doit le faire, pas pour, entre guillemets, gouverner le monde, mais pour protéger des hommes et des femmes qui, comme nous, ont droit à la dignité. C'est juste ça, le critère.
Frédéric et Nicolas, votre regard sur le libre-échange, jusqu'où on va ou jusqu'où on ne va pas?
Alors, j'avais juste l'image en tête d'aller visiter quelqu'un qui était extrêmement contagieux à l'hôpital. Et quelque part, si on va visiter cette personne, on va se protéger. Et si on ne va pas le visiter, on n'a pas besoin de se protéger. Donc du moment où on cherche un échange, du moment où on cherche à aller vers l'autre ou que l'autre vient vers nous, on doit apprendre comment réagir. Et il y a une réaction de notre part qui doit se faire. Et celle-là, elle est importante. Elle est importante qu'on reste sur les choses qui sont importantes pour la Suisse, qui l'ont toujours été. Que ça soit d'avoir des institutions comme le CICR et d'être aussi souvent dans notre neutralité au service de ce genre de pays qui ne peuvent plus parler ensemble. Et je crois qu'on a un grand rôle à jouer parce qu'on a une grande chance, on peut être reconnaissant. Et puis, on peut vraiment jouer ce rôle de trait d'union, pas seulement à l'intérieur d'un gouvernement, mais on peut jouer ce rôle de trait d'union entre différents pays. Et puis, c'est clair qu'au niveau des multinationales, comme le disait Mme Baumschneider, là, c'est juste horrible de laisser faire. J'ai expliqué, ma fille a lu un article concernant l'huile de palme aux Philippines avec des enfants qui doivent travailler dans des conditions incroyables, des mamans qui ont leur bébé sur le dos et qui giclent du glyphosate. Elle m'a dit, on le finisse pas ici de pâte à tartiner ou bien on fait quoi avec? Mais bon, vu qu'on l'a, on le finit. Donc, quelque part, on pourrait aussi nous réagir de cette façon. Et puis, en tant qu'adulte, placer nos limites et puis dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'où on va? Est-ce qu'on veut vraiment continuer comme ça ou bien pas?
Thierry Froidevaux, il faut se fixer des limites.
Bien sûr, fixer des limites. Le consommateur est responsable de ce qu'il consomme. Donc, c'est clair que de ce point de vue-là, je rejoins Mme Baumschneider sur les circuits courts et tout ça. On a quand même certains avis communs, je pense. Mais après, il faut quand même... Oui, c'est clair que moi, chaque fois que je vois quelqu'un qui mange un pot de Nutella, je lui dis, toi, tu es un orang-outan. Tout simplement, parce qu'à un moment donné, il faut être conscient que ce qu'on ne consomme pas ici, puis ce qu'on utilise qui vient d'ailleurs, ça détruit des choses que nous-mêmes, on n'a pas de conséquences dessus. Et puis, c'est un petit peu là que j'en viens aussi, l'hypocrisie certaines fois que certaines personnes ont, c'est d'aller vouloir faire la politique à l'international et puis de vouloir gouverner à l'international, alors qu'on devrait simplement mettre des limites, plus de limites chez nous. Mais on ne veut pas plus limiter chez nous, parce que si on limite trop chez nous, on est méchant. Voilà où c'est que...
Alors, Frédéric Lovy, vous brûlez de répondre.
Oui, alors, tout d'abord, je pense que, bien évidemment, la Suisse a besoin de ces accords de libre-échange, mais il ne faut jamais aussi oublier que les pays avec lesquels on traite ont besoin de la Suisse. Et au bout d'un moment, dans les négociations, dans les relations, la Suisse doit garder sa ligne, être intransigeante et critique envers les pays qui ne respectent pas certaines règles. Et bon, il y a eu là l'exemple, là c'est plutôt par rapport à la nourriture, mais surtout aussi par le respect des droits humains. Mais je crois aussi qu'en Suisse, avec ces accords, ça nous permet de dialoguer, de faire passer des messages en termes d'environnement, de coopération au développement. C'est très important aussi concernant la migration ou la formation. Donc il ne faut pas craindre ces négociations d'accords de libre-échange, d'ailleurs que ce soit avec des gouvernements dits populistes ou tout autre gouvernement. La Suisse peut se vendre à des produits d'exportation de qualité. Elle siège, comme ça a été dit, de nombreuses organisations internationales, à un système politique efficace, et donc se doit de collaborer jusqu'à une certaine limite.
Anne Froidevaux.
Frédéric Lovy l'a dit, quand deux pays commencent de négocier des accords de libre-échange, forcément, c'est que les deux, ils ont quelque chose à y gagner, clairement. Et je ne pense pas qu'il y en a un seul qui va signer un document de libre-échange s'il n'y a pas un avantage clair. Maintenant, ce n'est pas une question de méchanceté, de ne pas vouloir forcément remettre des barrières. Le problème, c'est que ça a été dit avant. En Suisse, par exemple, l'agriculture, on a un taux d'autosuffisance qui est de 50%. Ça veut dire qu'un produit sur deux qu'on consomme doit être importé. Et pour pouvoir les importer, ces produits, ma foi, il faut qu'on puisse aussi laisser arriver d'autres produits. Malheureusement, les accords concernent plein de domaines différents et il y en a parfois qui sont perdants, d'autres qui sont gagnants. Mais comme l'a dit Frédéric Lovy, je pense que la Suisse a des pays de qualité, elle sait négocier, et puis à nous aussi, dans les négociations, de mettre les conditions qu'il faut, parce que, à mon sens, le libre-échange, il fonctionne principalement quand les règles et les moyens de production aussi sont assez identiques, et je l'ai dit avant, par exemple, au niveau de l'agriculture, on sait que les règles sont beaucoup plus strictes en Suisse que dans l'Union européenne, par exemple. Et on ne parle même pas des produits d'Amérique du Sud. Et c'est là où il y a un déséquilibre. C'est que l'agriculture suisse ne joue pas au même niveau que les autres parce qu'ils ont des critères de qualité beaucoup plus élevés.
Erika Inka.
Oui, ce qui est important, c'est de protéger le marché agricole local, donc le jurassien et le suisse, contre la concurrence déloyale. On a vu un exemple qui était assez parlant. C'est l'accord de libre-échange avec la Malaisie, où ça ouvre les portes à de l'importation de l'huile de palme en masse, plus importante qu'avant. Et ça crée une concurrence déloyale vis-à-vis de nos producteurs, vis-à-vis de nos paysans et nos agriculteurs. Ce qu'il faut faire, c'est, en tout cas concernant le Mercosur, c'est stopper l'accord avec le Mercosur tout de suite et renégocier. Parce que, comme ça a été dit aussi, mais je le répétais, la Suisse est en mesure d'imprimer une réorientation de la politique commerciale, mais il faut qu'elle s'accorde avec les autres pays de l'ALE, évidemment, ou d'autres pays encore. Ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'en fait, on doit, quand on fait des accords avec des pays comme le Brésil ou le Mercosur, il faut une série de critères qui doivent être non négociables par rapport donc à la, d'abord protéger le marché, notre marché local, ensuite sur place protéger la population, que ça ne se fasse pas sur le dos de la déforestation ni sur le dos du travail des enfants. Le travail des enfants, les produits issus de travail des enfants doivent être exclus, et également toutes sortes de pollution ou d'impacts environnementaux qui nuisent gravement à la santé de la population sur place.
Thierry Froidevaux.
Oui, alors bon, moi je veux bien, mais il faut quand même, je pense principalement, avant de vouloir aller faire le ménage ailleurs, ce qu'il faudrait déjà simplement mettre, c'est des protections aux frontières, vraiment des protections aux frontières, que les milieux de la gauche se mobilisent peut-être, puis là l'UDC va certainement suivre, pour mettre des mesures de protection, pour faire monter les prix, puis se battre là contre une certaine partie de l'économie qui va à outrance, parce que les accords de libre-échange, ça profite déjà beaucoup plus à l'économie, ça profite rien du tout à l'agriculture, ça profite à l'économie qui distribué après au social, ça c'est vrai, on doit le ménager, mais il y a eu des extrêmes. Maintenant, par rapport à l'agriculture, on est toujours sur le thème un peu de l'agriculture quand même, parce qu'on en reparle. Si on veut aider les agriculteurs, à la place de descendre les accords de libre-échange, il faut limiter l'immigration. On ne peut pas avoir une Suisse à 10 millions d'habitants. Il faut protéger nos sols, il faut arrêter de construire à tout va, puis de développer l'économie à tout va, voilà.
Elisabeth Bouchner.
On va prendre le thème après l'immigration, mais je veux dire, bientôt, ils seront responsables du temps. Ça a déjà été dit souvent, mais je veux dire, vous, quand vous n'avez plus d'arguments complètement pertinents, vous dites que c'est la faute à l'immigration. Je veux dire, on prendra les chiffres après. Je veux dire, juste... Je voudrais les donner rapidement.
Parce qu'on n'aura peut-être pas le temps d'aborder ce dernier thème.
Je trouve que c'est dommage, parce qu'en 2018, il y a eu 160 personnes qui sont arrivées dans le Jura. 160 personnes par rapport à 73 000 habitants. Vous n'allez pas me dire que c'est trop. Et puis maintenant, cette année, c'est 36 arrivées. Donc, notre responsabilité, c'est l'intégration. On ne va pas faire le dossier, mais je trouve que c'est scandaleux, à un moment donné, de faire le mélange, et puis c'est même plus un mélange, c'est pire que ça, de dire qu'au niveau des produits, au niveau des accords, hop, le bouc émissaire, c'est l'étrangère et l'étranger.
Madame Bonschneider, avant, on arrivait à autosuffire la population avec notre nourriture à 60%. On a augmenté la population.
Les étrangères et les étrangers, peut-être pas les migrants, c'est ces personnes-là qui vous soignent, qui me soignent quand je vais à l'hôpital. C'est ces personnes qui sont là.
Quand on n'aura plus pour y donner à manger, vous voulez faire quoi?
Franchement.
On apportera massivement du Mercosur, pas de problème, c'est juste.
Est-ce que quelqu'un d'autre veut encore réagir sur ce plateau, Fred Lovie?
Peut-être qu'il faut juste rappeler que la Suisse a un taux de chômage les plus bas des pays européens, avec 4%. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Je suis assez d'accord avec Elisabeth Baumschneider.
Eric Henkin.
J'aimerais dire que, de toute façon, la migration, c'est quelque chose de catastrophique. Ce n'est pas fait de manière volontaire. Les gens viennent ici parce qu'il y a des problèmes de toutes sortes. Et avec les problèmes climatiques, on aura encore plus de migrants si on ne fait pas plus attention nous-mêmes. La Suisse, qui est un pays qui émet quand même, qui est un des gros émetteurs de CO2. Mais ce qu'il faut faire, c'est que, évidemment, que les gens puissent rester chez eux. Il faut qu'on augmente l'aide au développement, à la coopération. Il faut absolument qu'on participe au fait que les gens puissent rester chez eux.
Frédéric Nicolas.
En fait, j'aborde dans le sens de Mme Henkin qu'il faut pouvoir s'investir aussi à l'étranger. Il y a un grand roi qui a dit, vous l'avez peut-être lu une fois dans... dans un beau bouquin qui a dit « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras ». Et je crois que c'est aussi un peu ce qu'on a à faire. C'est à s'investir, pas seulement pour nous protéger très égoïstement, mais on doit aussi investir à l'étranger, chez ces populations-là, pour pouvoir agir vraiment en amont de toute la situation qui vient et qui va se détériorer avec la montée de l'eau, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment apprendre à regarder plus loin, à être visionnaire et puis à ne pas se laisser toujours prendre par notre petit confort.
La dernière réaction pour vous, Ernest Gerber.
Oui, alors ce qu'il faut dire ici, c'est que la Suisse a une longue tradition humanitaire. Bien sûr qu'il faut aider les gens chez eux, essayer qu'ils puissent rester dans leur pays. Maintenant, au niveau de la politique migratoire européenne, il faut maintenir l'accord de libre circulation des personnes, car nos entreprises ont besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Depuis 2002, plus de 700 000 emplois nouveaux ont été créés en Suisse. Ont été occupés par des ressortissants suisses. Les actifs de l'Union européenne complètent donc nos effectifs locaux. Et ça, c'est ne pas risquer de perdre l'ensemble des accords bilatéraux.
Voilà, on a quand même abordé en quelques mots ce thème de l'immigration. Il est 20h01. Merci à tous les candidats qui ont participé à ce débat. On va marquer une nouvelle petite pause musicale et revenir pour les questions du public. Quelques minutes, la salle aura la parole. On se retrouve dans quelques instants. J'invite tous les candidats qui sont dans la salle du premier plateau à nous rejoindre sur la scène.